Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 30 juillet. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Bock. Bon, je ne pouvais pas ne pas parler de la visite de M. Macron au Cameroun. Pas parce que, pour tout ce que vous savez, que je suis plutôt... Enfin, je suis... Qui suis-je? Je suis rien. Je suis pas de son bord politique, mais surtout parce que j'avais envie de parler de quelque chose d'important qui mérite quand même d'être souligné ici pour sa visite. Parce que vous savez, on fait ici l'éducation quand on fait la politique. Quand on commente, comme on dit, j'aime pas le mot commenter parce que si vous êtes un bon observateur de la vie publique, vous finissez par être un acteur, dans ce sens que vous finissez par avoir une véritable influence sur le cours des choses. Alors, dans cette visite, j'ai envie de parler de la symbolique, en fait, plus que de tout ce qui a pu être dit. Je ne vais pas prendre son discours et ses multiples discours ou ses déplacements et les commenter, mais... Je vais retenir quand même ce qui, dans tous ces mouvements, relevait de ce qu'on appelle la symbolique. Bon, la symbolique, c'est quoi? Il y a le symbole, c'est le drapeau français qui est un symbole de la République française. Et vous avez ce qu'on va appeler la symbolique quand on parle de ce drapeau français. C'est qu'une fois que le drapeau français ne flotte pas comme ça, en haut, comme ça, sur, vous savez, les frontons des administrations, et qu'il est déplacé probablement dans un lieu comme le Stade de France, à ce moment-là, il prend une symbolique qui veut dire que là, on est vraiment dans le cadre du patriotisme, c'est la guerre. Et vous avez toujours vu pourquoi, lorsqu'il y a des confrontations entre les clubs, les gens se déplacent avec le drapeau. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la République, comme on l'entend, l'État de droit Angleterre, comme on a vu la dernière fois, enfin Angleterre, l'État de droit anglais, britannique, ça devient carrément la patrie en danger, voyez, la nation. Donc c'est ça, la symbolique qui va m'intéresser, c'est deux ou trois choses, mais qui sont quand même significatives du moment. Donc, la symbolique, justement, c'est ça, c'est qu'on prend en compte la situation, le contexte et le moment d'irruption sur la scène publique. Moi, j'appelle toujours Mère Habermas, le grand penseur, le grand philosophe, lui, il dira l'espace public. Donc, cet espace public, c'est important, le mot espace public, parce qu'il nous renvoie à tout ce qui est représentation. Vous savez, quand vous arrivez sur l'espace public, vous êtes en représentation, que vous le veuillez ou non, et toute la symbolique, d'ailleurs, d'un président qui arrive français de surcroît, qui arrive voir ses meilleurs élèves en Afrique, ça devient un lieu théâtral. C'est une scène. Et dans cette émission, j'aurais pu l'appeler... au théâtre macronien, pour ne pas dire de la France-Afrique. France-Afrique, ça ne veut plus rien dire. Voilà justement ce genre de mots que je ne vais plus utiliser, que je ne vais même pas considérer. Au théâtre donc, de la Macronie, au Cameroun, par exemple, ou en Afrique. On va ajouter ce soir. Non, il a fait deux ou trois jours. Macron, quand il arrive en Afrique, en tant que président de la République française, forcément... On l'attend parce que par les activistes, déjà, c'est un réflexe. Donc, il y aura un jeu hein, des acteurs politiques ou publics et publics, parce que tout le monde qui intervient sur la politique n'est pas forcément politisé, dans ce sens qu'il n'a pas vraiment une culture politique, mais il a une culture publique. C'est ça les influenceurs, hein, c'est des acteurs publics sans être politiques, mais eux, ils croient qu'ils sont politiques, ils ne sont pas du tout, parce qu'être politique, ça nécessite une expertise qu'ils n'ont pas forcément. Donc, il y a des scènes. C'est donc le président qui arrive, qui est attendu forcément par les défenseurs des droits de l'homme. Il y a des opposants qui sont en prison. Il est attendu par ceux qui sont encore, mais par pratiquement toute l'Afrique, qui est encore en souffrance par rapport à l'histoire et à la mémoire coloniale et à la mémoire aussi des indépendances ratées. Alors, il est attendu par tous ces gens-là. Donc, c'est l'affrontement, c'est pas la guerre. Et ces gens-là sont forcément, se bousculent pour être invités, bien sûr, c'est le jeu. Et de toute façon, s'ils sont pas là, les journalistes prendront le relais éventuellement. Mais c'est bien qu'ils soient là parce que ça fait partie du jeu théâtral. Alors, ils vont poser les questions sur comment enfin, pas la question, ils vont s'indigner sur le fait que la France n'a toujours pas fait son mea culpa, n'a pas eu ce moment de repentance qui lui permet de reconnaître tous les crimes contre l'humanité pendant la colonisation en Afrique. Et bon, ça c'est du couru, c'est cousu main, oh, c'est très attendu. Bon, les prisonniers politiques, c'est d'anciens hommes politiques dans le gouvernement qui ont détourné des fonds publics. Ils sont en prison, et puis il y a d'autres, c'est parce qu'ils sont opposants, notamment ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de Monsieur Kamto. Ils sont emprisonnés parce qu'ils ont essayé de marcher, je ne sais pas quoi. Il y a une opposition qui se sent brimée ici, et donc on parle des prisonniers politiques, à raison, à dessein, probablement. Et forcément, on attend M. Macron pour régler cela, mais M. Macron ne peut pas régler cela. C'est ce que j'ai toujours dit ici, au cours des 2 ou 3 dernières émissions. Ce n'est pas le problème de la France. Et d'ailleurs, il a répondu là-dessus, qu'il était d'accord pour qu'on réécrive ensemble la vérité historique. C'est probablement sous la direction de M. Achille Mbembe qui l'a amené avec lui, qui est devenu à lui tout seul le représentant de la France-Afrique, enfin le représentant de l'Afrique du côté de la France. Bon, qu'on réécrive cette histoire pour que nous, voilà, les Africains, voilà, c'est ça le problème, c'est ce que j'ai dit, c'est pas à la France d'écrire la vérité historique de ce qu'elle a fait au Cameroun. C'est aux Camerounais eux-mêmes d'écrire cette histoire et de montrer toutes ses exactions. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas non plus le travail du président français de venir mener le combat politique sur place pour sortir les opposants des geôles politiques, des geôles, enfin, comme ils disent. Non, c'est pas. C'est toujours ce que j'ai dit. On a des activistes. L'activiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est soit. Il est dans l'effet perroquet, il répète les choses qui sont convenues et convenables, contrairement à ce qu'il croit, alors qu'il croit être dans une forme de rupture avec ce discours convenu. Maintenant, il reprend le convenu et il y a ceux qui sont donc des activistes perroquets, il y a des activistes très énervés, des enragés, parce que plus vous en rajoutez, plus ça peut le faire. Et puis d'autres qui sont vraiment sous-cultivés, comme je disais tout à l'heure, politiquement, et qui vont. Parce qu'aujourd'hui aussi, vous savez, c'est le moment, avec Internet, avec les réseaux sociaux, vous pouvez faire du buzz avec que dalle, hein, avec beaucoup de vent, et comme ceux qui font la monnaie, et avec beaucoup de vent à la bourse. Voilà. Donc c'est la même chose. Et c'est vrai que pour distinguer tout cela, c'est pas facile. Bon, pour un président qui est entouré par beaucoup de conseillers, si, c'est facile. Donc la question des ONG qui disent que la visite de Macron, c'est ce que j'ai vu dans Le Monde aujourd'hui, qui dit que les ONG disent qui sont venus ici disent que la visite de Macron n'a rien apporté au Cameroun, mais évidemment qu'elle n'apportait rien. Et Le Monde précise très bien, c'est parce qu'ils ont raté l'objet de la mission ou de la visite du président Macron. Monsieur Macron est venu ici pour défendre les intérêts français, comme dit Le Monde, et empêcher la Russie de prendre une grande place auprès des Africains, c'est tout. Il n'est pas venu ici pour tout ce qu'on raconte qui relève de la responsabilité des Africains. C'est pas le problème de la France, ce que j'ai dit là, ce dont ils se plaignent. Mais bien sûr, après, ils vont dire oui, mais nos présidents sont embrigadés par la franc-maçonnerie qui gouverne le monde et donc la France. Bon, ça, c'est un autre volet dans lequel je peux pas entrer. Parce que ça devient de l'ésotérique et ça peut servir d'excuse à tout. Et moi, je n'accepte pas du tout cela. Donc, M. Macron vient pour ça, pour les intérêts de la France, oui, on a dit lesquels. Et pour comment on va dire, mettre en garde l'Afrique contre l'influence russe. Et M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a très bien senti le coup. C'est la symbolique. Là, c'est M. Macron qui nous parle d'une guerre que la Russie avait déclenchée, une guerre sur une triple base, triple offensive, alimentaire, énergétique, militaire, tout ce que vous voulez. Et il accuse durement comme ça, mais M. Lavrov arrive dans l'instant aussi. Et il dit, il faut surtout pas que l'Afrique accepte ou continue d'accepter le leadership mondial de l'Occident, parce que l'Occident, je résume, c'est des gens qui ont esthétisé la violence jusqu'à transformer la République les républiques en des barbaries, voilà, territoires sauvages, et parce que c'est des gens qui sont malhonnêtes, qui ont établi ce qui est quand même quelque chose d'assez curieux, c'est l'inversion de la responsabilité où nous arrivons aujourd'hui au fait que c'est le coupable qui accuse la victime. C'est incroyable. Et donc, ces choses-là, M. Lavrov pense qu'il doit mettre en garde l'Afrique aussi contre cela, leur dire, ouvrez les yeux, ces gens-là, et c'est vraiment coïncident. Partout où la France va venir défendre ses intérêts en Afrique, il y a des terroristes. Le règne de l'Occident marche avec le terrorisme. Partout où ils ont des intérêts à défendre, on crée des forces terroristes. Il n'y a même pas à rechercher. Le premier chercheur trouve cela. Et ça va de pair depuis. Et cette guerre de l'information, elle était aussi là, lors de la visite de M. Macron, bien prévue. Information contre. Contre information, si on va dire comme ça, et il fallait bien que l'information aussi fait partie de la guerre. Il fait partie de la guerre dans ce sens aussi qu'il y a dans l'information un déplacement de mouvement, de logique. Vous savez, c'est tout ce qui est propagande que Hitler a très bien manipulé, manié. Donc l'information, c'est la guerre. Et c'est normal que Lavrov soit venu. Lui, il n'est pas venu au Cameroun, il est venu en Éthiopie. Pour dire attention, attention, tout ça, c'est pas des vérités. Donc, on est toujours dans la symbolique, on est vraiment en marge de la visite de M. Macron, mais c'est ce qui se jouait aussi. C'était facile pour M. Macron d'accuser la Russie, mais il fallait donc que la Russie réponde en temps réel. Alors, dans leur discours, pardon, leur rencontre, conférence de presse, il y a le mot le village qui m'a beaucoup intéressé parce que. La dernière fois, j'avais demandé à M. Macron, et maintenant, que vais-je faire? Et qu'est-ce qu'il va faire? Je lui avais dédié la chanson qui va avec, de Gilbert Bécaud. Alors, il est venu, il a choisi de réfuter, paraît qu'il y avait un dîner d'État qui était prévu, pour aller rendre visite à M. Noah, le champion tennisman, dans son village appelé Itoudi. Encore une symbolique. Étoudi n'est plus d'ailleurs un village, parce que depuis c'est un quartier de Yaoundé, mais il se trouve que par une coïncidence extraordinaire, ils se font face à face, le village Étoudi, le quartier Étoudi, est face au palais présidentiel. Ils sont dans le même quartier. Vous voyez, mais sauf qu'il y a un boulevard qu'on va appeler le boulevard de l'Ouest, parce qu'il mène à l'Ouest, qui les sépare. Voilà. Donc ce face à face était très significatif comme choix. Bien sûr, Doha, On va dire qu'il y avait quand même quelque chose comme un prétexte, puisque Noah était champion au nom de la France. Alors, ce Camerounais qui revient, franco-camerounais qui revient au Cameroun, bon, Monsieur Macron va aller lui rendre hommage dans son village, donc dans son quartier, un peu comme si on faisait un panthéon aux grands hommes, la France reconnaissance. Vous voyez, c'est un jeu de symboles, hein, un jeu de symboles très, 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 très fort, qu'on ne se dit pas trop. Et en parlant du village aussi, moi j'ai tellement parlé du village de Bonmakak, c'est un clin d'œil à mon maintenant, que vais-je faire? C'est comme ça qu'on se parle en politique. Et à mot couvert. Et le président Biya aussi a dit, bah, on lui a demandé s'il allait se représenter. Bah, il dit, si je ne me représente pas, je rentre au village. Monsieur Biya est déjà au village, il a un palais à Vomeka, c'est son village. Non seulement il a un palais, mais il a des plantations. C'est un agriculteur incroyable. Il est très loin et il cultive presque tout. Et pourquoi le dire? Ben c'est juste ironique, village pour village, puisqu'il sait qu'après, Macron va aller au village de Monsieur Noah. Donc lui aussi le dit, et c'était bien parce que le président camerounais. Alors c'est triste parce que il n'apparaît que lorsque Monsieur Macron arrive. Pourquoi? Le peuple demande à le voir depuis, on a dit qu'il est mort et il n'est pas mort. Et ce mépris du peuple aussi, ça fait partie de ce dont on accuse la France d'être responsable. Parce qu'il suffit que Macron arrive pour qu'il apparaisse en conférence de presse. Mais le peuple a besoin de voir son président. Monsieur Biya n'est pas le suppôt ou le valet de la République française, où il vient quand la France est là. Il est élu par le peuple. Bon, on va laisser tomber que les élections sont truquées. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave sur un autre plan. C'est pas la question. C'est ce que je devrais dire. Quand il apparaît comme ça, et puis il apparaît, il n'est même pas diminué. Il fait de l'ironie sur le village. Et il fait aussi de l'ironie sur... Alors, la question d'un journaliste. C'était extraordinaire. Une journaliste aussi expérimentée qui se lève, qui s'embrouille dans ses questions, vous voyez, elle veut poser trop de questions en même temps. Elle commence, et ma question s'adresse au président Biya, elle déroule une question ou deux, après elle passe, puis ma question, j'ai aussi une question pour le président français, elle déroule et elle revient encore au président camerounais, j'ai une autre question. Bon, c'est normal qu'au bout de tout ça, moi-même, je ne sais plus la question qu'elle posait. J'ai pas suivi la conférence de presse en direct. Hein. J'ai vu les extraits. Et là, le président dit, j'ai pas compris la question. Elle répète, et le président redit, j'ai pas compris la question. Si quelqu'un pouvait lui expliquer, c'était très bien parce que là, il a montré toute ses capacités cognitives. Vous savez, on dit qu'il a un déficient mental, ça va pas, dégénérescence accélérée, catastrophique. Mais là, quand il dit j'ai pas compris la question, qu'est-ce que les journalistes et les commentateurs comprennent? Ils comprennent que, oh voilà, il n'entend plus bien, il est trop vieux, ou alors il est malhonnête, il est démagogique, il veut pas répondre à la question. Mais ce qu'on ne voit pas au fond, c'est que journalistiquement, c'était minable, c'était nul. Ça, c'est pas du journalisme. Quand vous faites du journalisme, vous devez, si vous avez trop de questions, parce qu'on est en situation de conférence de presse, vous n'êtes pas seul, vous devez faire ce qu'on appelle, dans le cadre, de l'enseignement du journalisme, passez-moi du journalisme, vous devez avoir une priorité. Il y a la hiérarchie des informations dans votre tête, vous la hiérarchisez et vous posez la question qui vous paraît le plus essentielle et étant claire. Vous ne pouvez pas, en même temps, ma question s'adresse au président Biya, dadada, ma question s'adresse. Au même moment, ça donne pas, ça donne pas. Donc moi j'ai trouvé ça très fort qu'ils disent j'ai pas compris la question. Effectivement, moi non plus, j'ai pas compris la question parce que c'était tout un fourre-tout. Mais est-ce que c'était un piège? Si c'était un piège, il a été très habilement déjoué. Ce qui nous amène cette histoire de toujours des symboliques, hein, ça c'est la communication, ça c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Ça nous amène aux États-Unis. Avec la question du juge Thomas Clarence, qui est puni par des jeunes qui se trompent de priorité, de l'université, du département de droit de l'université de George Washington, à Washington, pas George Washington, à Washington, et peut-être même c'est George Washington, j'ai vu cette université, je m'en souviens plus, et Il faisait des cours de droit là-bas, il donnait des cours de droit, notamment il avait un séminaire. Ah, le séminaire a annulé sur la demande des étudiants très remontés par le lobby LGBT, par les démocrates, par tous les activistes enragés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont contre le fait qu'on ait retourné la fameuse loi. Vous savez, ils disent que la loi contre l'avortement ne peut pas faire partie de la Constitution. Ça, c'est des choses qui sont d'État. Il a renvoyé la décision aux États qui sont chargés de régler la question État par État. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va marquer dans la Constitution. C'est vrai que au fond du fond, si on interprète ce que c'est que la Constitution, il a raison. Mais qui est constitutionnaliste? Ce n'est pas les étudiants. Ils sont là pour apprendre. Et pourquoi l'université succombe à cela? C'est que les lieux et toutes les universités se sont perverties par le système qui est, comme on dit, comment on dit souvent un truc là, oh, one side, c'est pas ça, c'est ça un nom là, ça un nom. Il y a un patron pour tout le monde. One size fits all. Alors, je vois pas pourquoi. Enfin, je vois pas, je vois, mais je ne comprends pas comment l'enseignement universitaire a pu tomber aussi bas pour se rendre pieds et mains aux politiques. Et maintenant, les élèves, ce sont les élèves qui vont décider de qui doit les enseigner ou pas. C'est pas possible. Ils sont là pour apprendre. Ce qui relève de la liberté et qui relève de la Constitution veut que, en pareil cas, en pareille situation, vous n'êtes pas obligé de venir vous inscrire au séminaire du juge Clarence. Vous venez pas. Et s'il n'y a personne là, on dira oui, il n'y a personne qui est venu. On constatera peut-être le vide, même s'il est organisé. Mais vous ne pouvez pas commencer à monter des manifestations qui relèvent de l'espace public autre que la scène universitaire pour demander la tête des enseignants. Et la direction de l'enseignement ne peut pas, de l'université, ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas les étudiants qui doivent faire la loi dans les facultés, mais c'est dans les campus, y compris, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, y compris le choix des enseignants. Qui peut contester la qualité d'enseignant expérimenté, super expérimenté d'ailleurs, à Monsieur Clarence, qui peut jusqu'à présent l'enseigner, puis tout d'un coup, oh, les étudiants ne sont pas d'accord parce qu'ils sont pour l'avortement, où est le rapport? Et que l'avortement n'est plus écrit dans la Constitution, et ils disent que oui, il y a un rapport parce que le juge a été, je ne sais pas où il a été manipulé, où il a allé au-delà de ses fonctions, et d'ailleurs on demande qu'il soit impeached, c'est-à-dire qu'on le vire de la Cour suprême. Ce n'est pas possible. La Cour suprême, déjà pour montrer l'inculture de ces gens et des activistes qui soutiennent tout ça, et le juge de la Cour suprême, il est là à vie. Il est là à vie. On suppose qu'il n'est pas corruptible. La Constitution le prévoit, ça, que ce type de juge ne doit pas être corruptible. On ne peut pas l'enlever non plus, parce que justement, quand vous pouvez être... perdre votre boulot du jour au lendemain, évidemment, vous êtes exposé à la corruption. Mais lorsque vous savez que vous êtes là, franchement, si vous vous exposez à la corruption, c'est que c'est votre propre conscience qui souffre de beaucoup de manquements et que vous êtes probablement malheureux. Alors moi, je me suis souvenu, mon livre, mon clonage institutionnel, ah, il faut que je le renomme, comment défier le système, c'est partout, il faut trouver un titre spectaculaire. Quelqu'un a dit qu'il y a une femme qui avait écrit un livre, elle a avec un titre banal, et quelqu'un d'autre est venu, a lu ce livre, comme ça, a parcouru, comme ça, elle avait vendu 2000 exemplaires, et ce monsieur a regardé, et puis s'est dit, bah, c'est pas mal, il a recontacté l'auteur, et lui a dit, je vais rediffuser votre livre, il me paraît important, intéressant, pardon, et je vais le réintituler. Il a réintitulé Comment faire l'amour à sa femme, ou sans arrêt, ou sans quoi, vous voyez, un truc comme ça excessif. Et alors, le livre est devenu un best-seller, le petit livre. Donc, il faut avoir les titres. Et moi, je me suis souvenu, quand j'ai écrit le clonage institutionnel, de mon expérience que j'ai eue dans un établissement scolaire, le lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, et où d'ailleurs il y a un grand centre commercial qui s'appelle Le Village. Vous voyez le clin d'œil du président Macron à moi. D'un village, Villefontaine, au village, au Cameroun, Boutmakaï, ça donne le village et tout dit. C'est ça la communication politique, entre opposants, si on peut dire comme ça, ou entre camps adverses. Alors, dans ce lycée, l'expérience est conclue comment? Là, cette fois-ci, c'est pas les élèves étaient très contents. Mais c'est les enseignants qui n'étaient pas contents du tout, parce que je ne suis pas passé par le processus normal qui forme les maîtres, l'école de formation des maîtres. Et donc là, non, 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 pas possible. Voyez, vous partez probablement tous ceux dont on demande le départ partent pour efficacité. Et cette efficacité aujourd'hui, on ne la veut plus. On la veut plus dans les universités. Ça fait penser ici au Cameroun, au philosophe le docteur Fridolin Kay, qui a dit des vérités sur le fait qu'il ne voulait pas voir le franc Biya, le fils du président Biya, succéder à son père, enfin, qui a dit sa vérité. Bon, ce que beaucoup de gens aussi penseraient. Il faut être libre de penser quand même pour un philosophe de ne plus penser, c'est pas possible. On l'a viré de l'université Ngoakilé, Yaoundé 1. Bon, moi, j'ai été viré vite fait, ça s'est vu. Là, c'est pareil, c'est les enseignants autour, vous savez, les collègues qui organisent des manigances. C'est comme ça, quand ce n'est pas les élèves, les étudiants qui sont montés, souvent, la plupart du temps, ces étudiants, dans ce cas-là, sont montés contre l'enseignant et demandent sa tête. Mais moi, dans mon cas, les élèves et les étudiants ont toujours été très contents, très, très contents. Mais autour, là, cette flambée, aréopage de médiocres qui dirigent le monde, bah, ils se sentent insultés par ça. Et donc, c'est un jeu des acteurs assez pervers qui gère le monde aujourd'hui, mais que des jeunes étudiants demandent la tête d'un enseignant, c'est pas possible, qui fait un séminaire. C'est comme si vous étiez au Collège de France, vous faites votre séminaire, vous demandez la tête d'Alain Ficquelcrot, par exemple. Pourquoi? Pourquoi? Vous venez pas, c'est tout. Bon, alors, c'est toute cette symbolique aujourd'hui qui marque toute la régression qu'on voit au niveau sociétal, si on peut dire ainsi. Et quand M. Macron arrive, qu'est-ce qu'il peut faire contre cela? Qu'est-ce qu'il peut faire contre cela? C'est pas son travail. Son travail, c'est d'arrêter ce genre d'accord qui vient de conclure avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Il l'a fait en Guinée-Bissau pour lutter contre le terrorisme dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais dans la région de l'Afrique de l'Ouest, c'est une région privilégiée pour la coopération franco-africaine. Et avec les événements récents du Mali, on voit très bien que le terrorisme progresse dans la région à mesure que les intérêts de la France sont menacés. Donc, il faut interpréter les choses politiquement, mais peut-être que c'est pour. Vous savez, la politique, hein, c'est probablement. Faut le faire à Sciences Po, c'est tout. Ceux qui ne sortent pas de Sciences Po vont comprendre, mais sans comprendre. On dit, par exemple. Et je termine là-dessus, que M. Macron n'a pas reçu M. Camteau, qui était quand même un candidat très honorable au moment de la présidentielle. Il a été deuxième, il a fait un excellent score. Il a tenu tête donc au président Paul Biya, et depuis, il est la bête noire du gouvernement. Et il semblerait qu'on ait demandé au président Macron de ne pas le recevoir et tout, mais finalement il semblerait qu'à étudier, il y ait eu des scènes cachées où on a reçu M. Camteau et puis tout ce qu'on ne voulait pas voir, comme le député Brice Nietzsche, qui est quelqu'un d'excellent, qui s'est opposé, alors on retombe dans l'économie, on s'arrête vraiment là, qui s'est opposé à la fusion des brasseries du Cameroun, le groupe SABC, avec Guinness. Le groupe SABC veut racheter Guinness. À ce moment-là, ils auront environ 90% des parts de marché de la bière et des boissons, en fait. Et il a trouvé que cette forme de concentration n'était pas normale dans un petit pays comme le Cameroun. Et donc, il fallait peut-être faire marcher, faire fonctionner les lois sur anticoncurrentiel et tout cela. Comme il l'a dit, et M. Camteau aussi l'a dit, SABC, c'est un groupe français, enfin un groupe franco-canadien, bon, on ne sait plus, parce que c'est Castel maintenant qui le dirige le groupe. Comme ils ont dit ça, ben, ils sont Monsieur Nietzsche, Brice Nietzsche, numéro 2 du Social Democratic Front, je ne sais pas comment on dit ça en français, un parti politique ici. Il est interdit de tout maintenant. Je ne sais même plus s'il va être éligible. On l'a mis à l'écart du parti. Pourtant, c'est le meilleur de cette formation politique parce que leur président, John Fundi, il est vraiment, bon, voilà, à côté de la plaque, il est fini. On dirait qu'il a été vacciné du Covid. La version que je lis vraiment là, c'est la chute, la version le SARS, Covid-2, on dit. C'était le vaccin chinois, apparemment. Et Monsieur Nietzsche sera écarté, le meilleur d'entre eux, et puis les autres médiocres vont être là parce qu'il ne faut pas dire que des choses évidentes en fait. Il ne faut pas être contre les monopoles. En gros, si vous êtes contre les monopoles, vous êtes viré. Qu'est-ce que c'est que c'est. Enfin, bon, bref. Et vous êtes viré avec la participation active du président du parti, bien sûr. Forcément corrompu, bien sûr. Donc le virus Covid-19, on finit là vraiment avec les États-Unis. Encore, les études ont montré que ce premier virus, le SARS, le vaccin, il pouvait faire vieillir le cerveau de 20 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont eu été ceux à qui on a administré ce vaccin, on a vu des conséquences enfin, dramatiques en termes de vieillissement accéléré précoce et du cerveau et des cellules du corps. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que Monsieur Fauci, le docteur Fauci, qui dirigeait les opérations de ce Covid, et il nie maintenant qu'il avait préconisé, enfin prescrit, vraiment, parce qu'il était dans la task force du président Trump au moment du virus, enfin du pic du virus, et il avait prescrit les lockdowns. Et il dit non, non, il n'a jamais prescrit quelque chose de ce genre. Oh, du coup. Qu'est-ce que l'article nous dit? L'article, c'est dans le Epoch Times, le groupe de chercheurs dit quand même qu'il y a une solution. Il y a des solutions pour, comment dire, reverse, to reverse, le processus de vieillissement. Et c'est, contre toute attente, la méditation. Ah, il y a eu des recherches qui ont montré. Que la méditation vous faisait paraître plus jeune et et maintenait votre cerveau plus jeune, ralentissait le processus de vieillissement. Il y a eu des groupes, ceux qui méditent au moins 30 minutes par jour et ceux qui ne méditent pas du tout, qui ne pratiquent pas la méditation du tout. Avantage donc aux yogistes et à la civilisation indienne et voire asiatique. Et ils ont ajouté quand même, parce que là, quand vous lisez cet article et que la solution, c'est la méditation, ce n'est pas évident. Mais probablement qu'il fallait ajouter une barre pour dire aussi que la méditation ou alors la prière aussi, parce que méditer, c'est prier. Méditer, c'est prier. Donc la prière a un effet de rajeunissement du cerveau, probablement parce que. Elle vous apporte une espérance, comme a dit le pape, qui a été en visite au Canada pour demander pardon, et ce sera aux indigènes, enfin aux indigènes, je ne sais pas comment les appeler, aux premiers habitants qui ont dit oui, pardon, bien sûr, mais le cash, c'est une parenthèse. Et donc, la prière, parce que méditation, ça va être compliqué, et je ne vois pas très bien d'ailleurs la différence entre la méditation et la prière. Mais c'est un article écrit du point de vue de la laïcité, donc on va éviter la prière, et c'est probablement aussi une recherche effectuée du point de vue de la laïcité. On va éviter le mot prière et religion, parce que ça va remettre, ouais, ça va contredire l'ordre des choses telles qu'ils veulent qu'ils soient. Et la prière, donc, ou la méditation chez les yogistes ou les bouddhistes, est rajeunissante. On a dit la même chose du jeûne, ou en même ou alors, si elle n'est pas rajeunissante, elle est protectrice, parce qu'il y a forcément un mécanisme qui se met en place en termes d'hormones produites. C'est vrai, il y a l'hérédité, mais on ne parle pas de ça. Et à cela s'ajoute une meilleure alimentation, manger bien. Bah, manger bien aujourd'hui avec l'inflation qu'il y a et la vie chère. Vous voyez un peu très bien comment la faim peut détruire beaucoup de choses, ou l'angoisse, parce que la prière, elle vient vous sortir de l'angoisse, peut vous détruire l'angoisse du lendemain. Manger bien, les gens mangent aujourd'hui, mais ils ne mangent pas bien, forcément, beaucoup. Et pratiquer une activité, on va pas dire sportive, ou se bouger, ils appellent ça le workout, tous les jours, un tout petit peu de l'exercice physique, voilà, un minimum d'exercice physique, voilà. Le trio, le tiercé gagnant, on va dire ça comme ça, qui vous permet de gagner, méditer et prier, ou prier, manger, faites attention à ce que vous mangez, mangez bien. Et puis faites un peu d'exercice physique tous les jours, ça va ralentir votre processus de vieillissement. C'est très bien dit, mais franchement, pour prier sereinement ou méditer sereinement, mangez bien. Aujourd'hui, c'est cher, les légumes, les fruits. Et puis pratiquer une activité physique régulièrement, tout ça nécessite une force mentale qui peut être là avec le Covid qui tourne, avec ses variants, avec les guerres, avec, bon, la vie chère. Monsieur Biden, qui est absolument le président américain pris dans l'étau de la guerre de l'Ukraine, les Américains pensent qu'il ne faut pas qu'ils se représentent parce que la crise est grave. Les prix, la flambée des prix est insoutenable. Puis là, aux États-Unis, en ce moment, il fait très chaud, il y a du feu, puis il y a les inondations. Ça ajoute au moral. Et 70% d'Américains pensent que le pays n'est pas bien géré ou ne prend pas la bonne direction, au point d'ailleurs que M. Biden, qui avait critiqué M. Trump, vous voyez le jeu des acteurs politiques, qui critiquait le mur, hein, qui était construit contre le Mexique, et bien, il est en train de reprendre la construction du mur tranquillement et doucement, sans que les journalistes ne disent un mot. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flair sur le monde par Elise Bock pour Radio Silence, forcément votre radio préférée que vous connaissez maintenant. Alors je vous dis à bientôt.